just last the year. Poor little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood and crushed veneer.
Bonjour et bienvenue sur Passeur de mémoire.
Imaginez un lieu devenu le symbole de l'horreur, Auschwitz. Derrière ce nom, nous pensons aux millions de victimes. Mais ces tragédies se sont produites à cause d'hommes qui ont organisé ce système.
Alors non, aujourd'hui nous n'allons pas aborder le sujet d'Hitler et de ses idées politiques bien tranchées, mais d'un homme moins connu, pourtant tout autant radical. J'ai nommé Rudolf Höss.
En effet, il a été entre 1940 et 1943 le commandant du camp de concentration et de mise à mort Auschwitz-Birkenau et l'un des principaux acteurs du crime de masse pendant la Seconde Guerre mondiale.
En 1946, Höss est arrêté. Il va être jugé, mais jugé sous quelle identité ? Un criminel, un homme de son temps ou un simple exécutant ? Il ne s'agit pas seulement de condamner un homme, mais de comprendre comment un système criminel a pu fonctionner avec la participation d'individus qui se présentent eux-mêmes comme de simples exécutants.
L'homme qui sort de ce camion, le 11 mars 1947, s'appelle Rudolf Höss. Un des rouages essentiels de la solution finale. Le commandant d'Auschwitz est livré par les Américains aux autorités polonaises qui vont le juger pour ses crimes. C'est un technicien des camps. L'extermination des Juifs fut sa priorité. Sous son commandement, plus d'un million d'hommes, femmes et enfants sont morts, la plupart assassinés dans les chambres à gaz.
Avant d'aborder son procès, revenons sur les grandes étapes de sa vie. Rudolf Höss est né le 25 novembre 1901 en Allemagne, dans une famille catholique très stricte. À 16 ans, il s'engage dans l'armée impériale allemande et sert au cours de la Première Guerre mondiale. Affilié au parti nazi en 1922, il intègre la SS et grimpe rapidement les échelons du système nazi. En 1940, il est nommé commandant du camp de concentration Auschwitz et centre de mise à mort Birkenau. C'est sous sa direction que les chambres à gaz et fours crématoires sont construits, causant des centaines de milliers de morts, principalement des juifs et des tziganes, mais aussi des opposants politiques et prisonniers de guerre. Tout cela en continuant sa vie de famille, comme si de rien n'était, à seulement quelques pas du camp.
C'est nous qui avons fait tout ça. Là, il y a la vigne. Elle va finir par tout recouvrir. Ici, on a des tomates.
Non, j'arrête de jouer.
C'est gigantesque. Alors là, je suis sans voix. C'est moi qui ai fait tous les plans du jardin. Toutes les plantations, là. La serre, là, derrière. Le pavillon.
C'est une piscine que je vois.
Oui, oui. J'ai des jardiniers, évidemment. Je fais pas ça toute seule.
Un toboggan.
Oui.
Oh, Eddie.
Ça te plaît?
Oui, comment on pourrait pas aimer tout ça?
Maintenant que le cadre est posé, nous pouvons nous pencher sur ce fameux procès qui a marqué l'histoire.
D'ailleurs, une vidéo de nos confrères de France 2 illustre parfaitement cela. Vous êtes d'accord ?
Évidemment.
Allons-y.
Cet homme a voulu se justifier dans l'attente de son procès en écrivant une sorte d'autobiographie, un document unique pour un haut dignitaire nazi. Concernant l'extermination des Juifs, dès l'été 1941, on le découvre fonctionnaire zélé. Sans état d'âme, lors d'une conversation avec Himmler, chef de la SS.
Les arguments qu'il me présenta me firent paraître ses instructions parfaitement justifiées. Je n'avais pas à réfléchir, j'avais à exécuter la consigne. Mon horizon n'était pas suffisamment vaste pour me permettre de former un jugement personnel sur la nécessité d'exterminer tous les Juifs.
Mais pendant l'été 1944, les Soviétiques approchent, le temps presse. Höss supervise le gazage de 435 000 juifs hongrois en 56 jours. Les fours crématoires ne suffisent plus, il faut incinérer les corps à l'air libre, mais la fumée risque de servir de repère à l'aviation alliée qui tente de bombarder les usines d'Auschwitz. Malgré ce risque, Höss veut à tout prix tenir ses objectifs de destruction.
Mais nous nous trouvions dans l'obligation de poursuivre les incinérations pendant la nuit pour empêcher les embouteillages de convois. Il fallait à tout prix maintenir l'horaire des diverses actions établies de la manière la plus précise au cours d'une conférence décidée par le ministre des Communications.
Maintenant que le parcours de Rudolf Höss est posé, intéressons-nous plus précisément à son procès. Car son procès n'est pas seulement celui d'un individu, c'est celui d'un système entier, incarné par un homme qui se présente comme ordinaire.
C'est exactement ça. Eux s'est arrêté en 1946, après avoir pris la fuite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il vit alors sous une fausse identité, travaillant comme ouvrier agricole. Dès qu'il est retrouvé, il ne résiste presque pas. Il est présent lors du procès de Nuremberg, en tant que témoin, où il avoue le meurtre collectif par gazage et sa position d'ancien commandant d'Auschwitz. Mais c'est qu'en 1947 que son procès débute à Varsovie, en Pologne, devant le tribunal suprême polonais. Lors de son procès, un élément interpelle les enquêteurs. Il avoue les faits, mais ne montre aucune émotion ni de réelle culpabilité face aux crimes qui lui sont reprochés. Il décrit Auschwitz avec un langage froid, qui est parfois même qualifié d'administratif, comme s'il parlait d'une usine ou d'une entreprise. Nous allons remarquer qu'il va garder cette attitude tout au long de son procès.
Par ailleurs, nous pouvons ajouter que le lieu où se déroule le jugement n'a pas été choisi au hasard, puisque la Pologne a été l'un des territoires les plus touchés par l'occupation nazie, et Auschwitz s'y trouve.
En effet, c'est un lieu rempli d'histoire.
Contrairement à d'autres responsables nazis, Höss avoue. Il reconnaît l'existence des chambres à gaz, l'utilisation du Zyklon B et l'ampleur des mises à mort. C'est vraiment cela qui rend ce procès particulier. Cependant, nous pouvons faire la remarque « avouer ne veut pas dire assumer ». Durant tout le procès, Höss adopte, comme on l'a déjà dit, une attitude froide et distante. Il parle d'Auschwitz comme un lieu d'organisation. Ce qui est d'autant plus perturbant, c'est qu'il fait des crimes une routine. Il explique, je cite, qu'il a bien fait son travail, qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres d'Himmler, qu'il n'avait pas d'autre choix que d'obéir aux autorités supérieures dans un régime totalitaire comme celui de l'Allemagne nazie.
Le camarade Höss, en 4 ans de travail acharné, a obtenu des résultats inouïs. J'ai pu assister de près à la construction de ce grand camp, et je puis en témoigner. Le Reichsführer Himmler lui-même a reconnu à plusieurs reprises le caractère unique de ce que Höss a accompli. J'entends maintenant dire que la tâche serait devenue trop lourde pour lui et qu'il devrait être remplacé. Or, Höss connaît très bien l'utilisation des prisonniers. Il entretient des relations étroites avec les usines d'armement de Haute-Silésie, et il a apporté des idées novatrices pour gérer le camp. C'est un colon modèle et un pionnier exemplaire pour l'expansion à l'Est. Son point fort est l'application pratique.
Mais est-ce que c'est réellement crédible cette idée qu'il n'avait aucun choix ?
C'est justement ce que le tribunal va nous montrer. Höss n'était pas un simple exécutant. Il a proposé des solutions pour rendre l'extermination plus rapide et a même amélioré les méthodes de mise à mort. Par exemple, c'est lui qui a validé l'usage du Zyklon B à grande échelle afin d'exterminer en grand nombre. Il organise de plus les rotations des crématoires et optimise le processus. Autrement dit, il ne se contentait pas d'obéir. Il agissait, décidait et innovait. Son argument de simple exécutant n'était plus crédible face aux faits concrets qui lui sont reprochés.
On peut ajouter que cette question dépasse largement le cas de Rudolf Höss. Elle concerne toute la société à toute époque.
Oui, effectivement, obéir à un ordre criminel ne supprime pas la responsabilité individuelle et au contraire, elle l'engage pleinement. Ce procès affirme donc un principe fondamental international qui est le suivant. Chaque individu reste responsable de ses actes, même dans un système totalitaire.
Ce principe a des conséquences majeures pour la mémoire historique, car si l'on considère que les individus ne sont pas responsables, alors le crime devient abstrait. Il devient un phénomène banal, presque industriel. Or, ce procès montre l'inverse. Il montre que derrière l'organisation industrielle, il y a des décisions humaines, des choix, des initiatives. En démontrant cela, le tribunal empêche que l'on parle du génocide comme d'un simple engrenage automatique. Il oblige la société à regarder en face la participation humaine du crime. Et cette prise de conscience est fondamentale dans la manière dont les générations suivantes vont comprendre la Shoah. Non pas comme une catastrophe naturelle de l'histoire, mais comme un crime volontaire.
Jusqu'au bout, Rudolf Höss restera un antisémite fanatique. En guise de conclusion, voici son bilan du nazisme.
Aujourd'hui, je reconnais aussi que l'extermination des Juifs constituait une erreur totale. C'est un anéantissement en masse qui a attiré sur l'Allemagne la haine du monde entier. Il n'a été d'aucune utilité pour la cause antisémite. Bien au contraire, il a permis à la juiverie de se rapprocher de son but final.
Le verdict tombe en mars 1947. Rudolf Höss est reconnu coupable pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il est condamné à mort, puis est exécuté le 16 avril 1947 sur le lieu même de son crime, sur le terrain du camp de concentration d'Auschwitz. C'est un choix très fort symboliquement.
Mais ce choix ne concerne pas seulement l'exécution, il concerne surtout le fait qu'un tribunal reconnaît officiellement l'existence d'un système d'extermination organisé. Dans l'immédiate après-guerre, beaucoup de survivants témoignent, racontent l'indescriptible. Pourtant, la parole des victimes ne suffit pas toujours à convaincre. Elle est parfois mise en doute, minimisée ou simplement trop difficile à entendre. Le procès transforme ces récits en faits établis. Ce n'est plus seulement une mémoire douloureuse, c'est une vérité reconnue par le droit. Le passage de la mémoire individuelle à la reconnaissance institutionnelle est essentiel. Il marque une étape décisive dans la construction d'une mémoire collective de la Shoah.
Oui, car c'est la justice qui revient sur le lieu du crime, qui est chargée de mémoire et de souffrance, et montre qu'aucun crime ne peut être justifié par l'obéissance. Le procès de Rudolf Höss joue un rôle fondamental dans la construction de la mémoire de la Shoah. Il permet de poser des mots, des faits et des preuves. Il empêche l'oubli et le déni des nouvelles générations. Ce procès montre aussi que le mal n'est pas toujours spectaculaire, il peut être rendu presque banal. Cette idée est particulièrement importante dans la réflexion sur la mémoire, car le procès ne montre pas un monstre hors du commun. Il montre un homme ordinaire qui parle calmement et qui décrit l'organisation d'un camp comme s'il décrivait la gestion d'une simple entreprise. Cette normalité apparente dérange profondément. Elle oblige la société à se poser une question difficile. Comment les individus apparemment ordinaires peuvent-ils participer à un crime d'une telle ampleur ?
En mettant cette question au centre du débat public, le procès dépasse la simple condamnation. Il ouvre la réflexion morale sur la responsabilité. L'obéissance est la capacité humaine à commettre le pire. Dans la mémoire collective, cette dimension est essentielle, car si l'on présente les criminels uniquement comme des monstres exceptionnels, on risque de se rassurer trop facilement. Le procès rappelle au contraire que le danger peut venir de la banalisation, de l'habitude, de l'acceptation progressive et l'inacceptable. Ainsi, le rôle mémoriel du procès n'est pas seulement historique, il est aussi préventif. Il sert d'avertissement pour l'avenir, il montre que la vigilance est nécessaire, que les institutions démocratiques doivent être protégées et que l'obéissance ne peut jamais être une excuse pour nier la conscience morale.
Si l'on résume, le procès de Rudolf Höss n'a pas seulement permis de condamner un responsable nazi.
Il a fixé juridiquement la réalité des crimes.
Il a affirmé la responsabilité individuelle.
Il a donné aux victimes une reconnaissance officielle.
Il a produit des preuves durables.
Il a ouvert une réflexion morale sur la banalité du mal.
Et surtout, il a transformé un lieu de mort en lieu de mémoire.
Aujourd'hui encore, lorsque l'on évoque Auschwitz, ce n'est pas seulement l'histoire du camp que l'on rappelle, mais aussi le fait que la justice a été rendue. Le procès devient ainsi un pilier de la transmission.
Être passeur de mémoire, ce n'est pas seulement raconter des faits, c'est expliquer comment ces faits ont été reconnus, jugés et intégrés dans notre mémoire collective.
C'est dans cet esprit que l'on peut penser à une phrase de Winston Churchill prononcée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ».
C'était Lilou,
Inès,
Tom
et Lali.
Merci de nous avoir écoutés sur Passeurs de mémoire.